Merci à cette formidable radio qui fait un super boulot.
Voilà, Hélène, merci de ta participation.
Oui, merci et merci Thierry, parce que vraiment, je suis comblée.
On va finir avec la petite phrase d'Assis. Si j'ai le temps, le monde changera sans fin. N'oubliez pas d'y être ni flexible, ni adaptable, ni soumis, ni mobile, et surtout pas récupérable, ni rééducable. D'y rester face à l'injustice, ingérable, indocile, ingouvernable, mutin, saboteur, sauvage, résistant et révolté, sans oublier partisan. Allez, à que ciao, bonsoir, à la prochaine, à mercredi prochain.
Imaginez toujours les guérisons de nos morsures.
Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu social et culturel sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne.
Et bonjour Léa.
Bonjour Baptiste, bonjour à toutes et à tous.
Dans l'actualité locale aujourd'hui, les vignerons annoncent de nouveaux blocages qui auront lieu donc demain, jeudi 22 février.
C'est le collectif Viti 33, collectif de viticulteurs et viticultrices du Bordelais, qui a lancé cet appel sur les réseaux sociaux. Le collectif dénonce, je cite, le mépris, selon des propos recueillis par Sud-Ouest, de la Fédération des négociants de Bordeaux, qui n'a pas daigné participer à une réunion de crise. Les mobilisations prévues ont pour objectif de visibiliser le prix indécent du tonneau, ainsi que, je cite le collectif Viti 33, de faire prendre conscience à l'aval de nos filières agricoles qu'ils doivent partager équitablement la valeur et les marges. L'action débutera au rond-point de l'autoroute de Langon, et à celui du cinéma à partir de 5h, et ce jusqu'à midi. Et le collectif appelle les sympathisants et les sympathisantes à les rejoindre en tracteur ou en voiture.
Autre mobilisation qui aura lieu ce samedi 24 février, une marche pour l'Ukraine, 2 ans après le début du conflit.
Le rendez-vous est fixé à 15h sur le parvis des droits de l'homme et plusieurs prises de parole sont prévues avant le départ de la marche, notamment de la part des associations Ukraine Amitié et la Maison ukrainienne qui a organisé la manifestation.
À Montpellier, un homme a tué son ex-femme devant le tribunal judiciaire avant de se suicider. C'était hier, mardi 20 février.
Libération parle, je cite, d'un drame choquant devant des dizaines de témoins. 20 minutes reprend le terme de drame pour parler en réalité d'un féminicide. Et en 2014, le collectif de journalistes Prenons la Une a épinglé le terme dans une tribune dénonçant l'euphémisation des violences faites aux femmes. Je cite, « Les médias contribuent à minimiser d'emblée la responsabilité du meurtrier présumé, voire à l'effacer. Le drame évoque l'accident et occulte la violence. À chaque fois qu'un ou qu'une journaliste utilise ces termes, c'est l'argumentaire du meurtrier qui est retenu. » Selon des données du site féminicide.fr, c'est le 22e féminicide de l'année. Sur ces 22 féminicides, 9 ont eu lieu dans un contexte de séparation et ou de violence connue. Sur ces 22 féminicides, il y a 8 suicides du tueur. Plus de 900 féminicides depuis le mandat d'Emmanuel Macron, qui avait fait de l'égalité femmes-hommes la grande cause de son quinquennat. Et Andrea Bescon, l'autrice et réalisatrice féministe, qui rédige sur Instagram des posts noirs sur la violence que les femmes et les enfants subissent, a réagi. Elle écrit, je cite, « Tu es un homme, tu as tué ta femme devant les marches du tribunal car tu ne supportes pas l'idée du divorce. » J'entendais l'ancien procureur François Molin dire que le risque zéro ne pourrait jamais exister. Oui, c'est vrai. Sauf que l'État français pourrait écouter les féministes, suivre le modèle espagnol et ainsi éviter qu'une femme soit tuée par un homme tous les 2 jours. Pour cela, il faudrait un portefeuille, une réforme de la justice, de la prévention, de l'accompagnement. Les hommes doivent comprendre que les femmes ne sont pas leur propriété, qu'ils ne peuvent pas disposer de leur corps et de leur vie à leur guise.
Et puis en préparation du 8 mars, journée de lutte pour les droits des femmes, une formation au service de sécurité est organisée ce samedi à Bordeaux.
Les associations féministes lancent cet appel dans un communiqué pour, je cite, « répondre à nos besoins de sécurité en manifestation pour démontrer nos capacités d'organisation et d'autogestion, pour rendre visible notre capacité à être présent et présente de façon collective, indépendant, solidaire et féministe dans l'espace public, social et politique de la rue. » Pour affirmer la présence d'un collectif féministe fort face à la police et l'extrême droite. Notre puissance est aussi un signal fort envoyé à nos partenaires pour offrir aux personnes qui le souhaitent un espace sécurisant et offensif lors des manifestations. Et la formation au service de sécurité a lieu samedi 24 février à 10h30 au planning familial situé à l'adresse du 19 rue Eugène Leroy à Bordeaux.
Merci beaucoup Léa pour toutes ces infos. 12h14 sur la clé des ondes, on poursuit ce plat de résistance qui n'a jamais si bien porté son nom en parlant de mémoire de la résistance. Aujourd'hui, 21 février, Missak et Méliné Manoukian entrent au Panthéon. 80 ans après l'exécution de Missak par les Allemands, c'était le 21 février 1944. Missak Manoukian, ouvrier, poète arménien, immigré en France, était le leader d'un groupe de 23 résistants étrangers durant la Seconde Guerre mondiale. En parallèle de cet événement officiel, un collectif s'est créé pour faire vivre la mémoire des étrangers dans la résistance en France de 1940 à 1945 et de tous les étrangers et les étrangères. Car il n'y a pas que Manoukian et sa bande qui ont résisté durant cette période. Beaucoup d'autres se sont battus, espagnols, italiens, polonais ou encore portugais et bien d'autres aussi également bien sûr. Ce collectif pour la mémoire des étrangers dans la résistance organise une série d'événements aujourd'hui à Paris et à Bordeaux. Il y avait ce matin ces cérémonies à la base sous-marine et sur l'esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux. Et ce soir, une projection est organisée au cinéma Utopia. Ni travail, ni famille, ni patrie, c'est le nom de ce documentaire de Moscou Lévy Boucaud qui sera projeté à 20h15, suivi d'une discussion. On a consacré une première émission à ce sujet mercredi dernier, qu'on peut réécouter bien sûr en podcast sur laclédesondes.fr. Aujourd'hui, une deuxième partie dans laquelle on va s'intéresser plus précisément à cette résistance étrangère, notamment à Bordeaux et dans le sud-ouest. Je précise que cette émission a été enregistrée le 12 février dernier. Pour parler de tout ça, 5 membres du collectif sont avec nous en studio. Manuel Diaz, bonjour Manuel.
Bonjour.
Du comité Sousa Mendes de la Ligue des droits de l'homme de Gironde et coordinateur de ce collectif. Bernard Lavallée, bonjour.
Bonjour.
Professeur d'histoire, spécialiste de l'histoire espagnole et membre de l'association AI Carmela. Valentin Fernandez, bonjour.
Bonjour.
Également du comité Sousa Mendes de la Ligue des droits de l'homme de Bordeaux et du collectif dont nous parlons. José Garcia, bonjour. Vice-président de l'association Caminar et également membre de AI Carmela et puis Esmeralda Travé. Bonjour Esmeralda.
Bonjour.
Présidente de l'Amicale des anciens guérilleros espagnols en France, FFI, section de Gironde. Alors je le disais, des résistants étrangers, il y en a eu de plein de nationalités, d'origines, de métiers, de genres. Donc il y a eu notamment des Espagnols, des Italiens, des Polonais, des Portugais, des Arméniens avec Manoukian bien sûr. Peut-être dire un petit peu qui était présent, comment s'est organisée cette résistance étrangères dans notre région, à Bordeaux et dans le sud-ouest. Bien sûr, via la proximité géographique, on se doute que c'était surtout les Espagnols et les Portugais qui étaient présents. Bernard Lavallée, qui était dans la résistance.
Disons, pour replacer le débat dans son époque, je crois qu'il y a quelque chose à dire. Nous sommes, au moment de la création de la MOI, main-d'œuvre immigrée, ou de la MOI ou MOI, nous sommes à une époque où on ne peut pas encore parler de la résistance. Nous sommes encore dans les résistances. Le CNR,
Conseil national de la résistance,
sous l'autorité du général de Gaulle, n'a pas encore été créé. Et il n'y a pas encore de maquis, comme on va les connaître à partir de la fin 42 et 43. Et en fait, il y a des réseaux qui sont soit d'obédience gaulliste, soit d'obédience anglaise, le célèbre réseau Buckmaster, très important dans le sud-ouest, soit des réseaux communistes, et effectivement les FTP, Frontières Partisans, un main d'œuvre immigrée sont des représentants. Alors, il y a aussi des réseaux moins importants, mais chacun de ces réseaux a ses objectifs. Le réseau Buckmaster, par exemple, fait essentiellement du renseignement. Les réseaux gaullistes, à l'époque, cherchent désespérément, avec beaucoup de difficultés, à unifier la résistance. Et les réseaux, les groupes FTP Moy, eux, qui sont l'expression, qui sont le bras armé du Parti communiste, ont fait un autre choix. Et cet autre choix, c'est la réponse armée, moins d'ailleurs dans une perspective proprement militaire qu'avec deux objectifs. Le premier, c'est faire sentir à l'envahisseur, à l'occupant, qu'il ne peut être tranquille nulle part, avec des attentats d'attires différentes. Et deuxièmement, un autre aspect très important dont on ne parle pas souvent, c'est que dans la décision de cette politique, et qui a été, il faut le bien dire, très critiquée du Parti communiste à ce moment-là, il y a aussi l'idée de montrer au peuple français, aux Français, que la résistance active a déjà commencé. Que, quand je dis la résistance active, excusez-moi, je me suis mal exprimé, la résistance armée a déjà commencé. Et c'est dans ce cadre-là, très divers, que vont surgir, notamment, parmi d'autres, donc ces groupes armés FTP Moy, essentiellement étrangers, comme le nom l'indique.
Est-ce que ça veut dire que les résistants étrangers se sont trouvés uniquement dans ce réseau communiste des FTP Moy ?
Non. Il y avait les réseaux FTP Moy étaient des réseaux urbains, de grandes villes, dont les étrangers qui étaient dans les campagnes qui avaient été dispersés, par exemple les Espagnols, après 1939 qui étaient dispersés, bon, ils ne pouvaient pas être à la Moy, puisqu'ils étaient loin de toute structure de cette nature-là. Ce sont les groupes FTP Moy sont des groupes urbains, de grandes villes, mais il y a aussi une foule de manifestations, d'organisations et d'actions de toute nature qui sont les résistances qui constituent la résistance.
Alors, est-ce qu'on peut brosser un tableau un petit peu de ces multiples forces résistantes qu'il y a pu y avoir en France entre 40 et 45 et forces résistantes étrangères qui Esmeralda ?
Oui, déjà pour en ce qui concerne les Espagnols, avec qui on fait le circuit par les concentrations, les compagnies de travailleurs étrangers et au moment de la débâcle qui sont retrouvées un petit peu dans la nature.
Donc il faut rappeler dire deux mots sur la guerre civile en Espagne qui avait lieu juste avant.
Voilà, de 36 à 39. Bon, c'est vrai que c'était une guerre entre Espagnols, mais qui était plus qu'une guerre civile, puisque tout de suite, les militaires espagnols ont reçu l'appui de l'Allemagne hitlérienne et de l'Italie de Mussolini, avec du matériel, avec des forces armées, des contingents qui ont été envoyés.
Donc les républicains espagnols, oui, après cette débâcle, se retrouvent France.
Ils se retrouvent repoussés vers la frontière française, et surtout après la chute de Barcelone en janvier 1939. Et là, donc, ils vont se retrouver, même si Madrid n'est pas encore tombée, parce qu'avril, Madrid ne tombera qu'au 1er avril 1939, ça on l'oublie. Hein. C'est les Espagnols et la majorité de l'armée républicaine se retrouvent en France, enfin, après mille difficultés pour passer la frontière, qu'on leur a fermée au nez. Et puis finalement, d'abord les populations civiles, l'armée, les soldats ont pu passer la frontière et être en France, où ils ont reçu un accueil parfaitement indigne, puisque tous les hommes ont été orientés vers des camps de concentration divers et variés dans ce périmètre là de la France du Sud-Est, on va dire, et notamment tout dans le Roussillon, et les femmes et enfants envoyés majoritairement par train dans des endroits tout à fait improbables, des départements du centre de la France, enfin, des endroits où elles ne savaient même pas où elles allaient aboutir. Voilà, bon, ça c'est le panorama général.
Oui. Comment on devient résistant en France quand on est réfugié républicain et qu'on est dans ces conditions indignes, oui, comme tu le dis, très compliquées ?
On peut dire que dans les camps, ces fameux camps de concentration, il y a une très forte solidarité, que les liens ne sont pas rompus. Ils ne sont pas rompus entre unités militaires, ils ne sont pas rompus entre... Il y a aussi des liens de proximité pour des personnes qui étaient originaires du même lieu, de la même région. Donc, tous ces réseaux de solidarité, ils se sont reconstitués, ils sont conservés ou reconstitués dans les camps de concentration. Et après, par la dispersion, parce que beaucoup ont été, comme nous l'avons dit la semaine dernière, ont été... envoyés, enrôlés dans les compagnies de travailleurs étrangers, beaucoup aussi se sont retrouvés dans ces différents lieux de France pour des fortifications diverses. Lignes Maginot et autres, dont nous parlions.
José, voilà. Garcia, pour la suite.
Et donc, ils ont gardé cette force, cette vigueur. Et quand la guerre a éclaté, bien évidemment, ils ont conservé l'espoir que... ils pouvaient combattre pour la liberté en France dans l'idée de pouvoir revenir en Espagne ensuite et abattre Franco.
José.
Cette ligne Maginot qui était un mur pour moi la semaine dernière, quand je parlais de Manuel Alfonso, c'est cette ligne Maginot. Alors, une des composantes, c'était l'armée, et une autre composante, c'est l'Église. L'Église, Franco, il comptait évidemment sur l'Église. Avec,
en 36.
L'Église qui perdure d'ailleurs encore en Espagne. Et une des particularités, je crois, de ces Espagnols, ces combattants, c'est qu'ils étaient jeunes. Très jeunes. Il fallait avoir 18 ans, mais il y en a qui se disaient, mais moi j'ai plus... qui avait 17 ans, moi j'ai 18 ans. Et ça, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que pendant 3 ans, ce qui manquait à la République espagnole, les républicains, ce sont les armes. C'était les armes. Mais ils savaient combattre. Ils savaient combattre. Et ça, ça a énormément servi en France. Partout, dans les maquis, partout. Les Espagnols savaient combattre. Ils savaient. Il leur manquait l'élément qui permettait. Et ça, c'est essentiel. C'est pour comprendre un petit peu. Et quand on voit la photo, les photos de ces Espagnols, on dit, mais c'est pas possible. Ils ont combattu 3 ans. Ils continuent, ils ont continué pendant... Ça a duré plus de 10 ans, quoi, pour eux.
Et des explosifs, ce qui est très important. Le dynamité, voilà, en France.
Bernard Lavallée.
Pour comprendre l'engagement des Espagnols à ce moment-là, des Espagnols, je dis, dans notre région, en France, d'une façon générale, il faut tenir compte aussi, en plus de tout ce qui a été dit, d'autre chose. C'est que la police française de l'époque, la police de Vichy, faisait une sorte de fixation, en tout cas à Bordeaux, c'est très clair, sur les Espagnols. Et il y a une quantité, aux archives départementales, une quantité de documentation extraordinairement intéressante, des enquêtes, des recensements, des renseignements, des fichages, des mesures vexatoires, qui font que ces Espagnols-là, ils se sentaient dans le viseur du fameux commissaire Poinçot, qui sera
fusillé. Alors, qui était le commissaire Poinçot ?
Le commissaire Poinçot, c'était un commissaire de la police de Bordeaux, qui était le commissaire spécial de la gare de Bordeaux. Et à ce titre-là, c'est lui qui avait eu à gérer le flux d'arrivée des Espagnols en 39. Et donc, il connaissait très bien le milieu des Espagnols qui était arrivé quelques années auparavant, et par le jeu des promotions dues à ses idées, il était devenu, en fait, le responsable de la lutte à Bordeaux contre toute forme, disons, de pensée non orthodoxe. Et en particulier, il avait dans le viseur les Espagnols récemment immigrés, et donc ces gens-là avaient une raison supplémentaire en quelque sorte de se sentir mal, puisqu'ils étaient l'objet, je l'ai dit, de vexations, d'enquêtes, de rafles, etc. Et donc, et en plus, tout ça en plus des situations dont on a parlé, du travail obligatoire dans les